Annie. Première partie, chapitre 10. Un peu après 10 heures, on vint prévenir Barinque que les invités commençaient à arriver, et il dut descendre au rez-de-chaussée. Il avait eu le temps de s'habiller, et quand il entra dans le grand salon, ce n'était plus le dessinateur de l'office cosmopolitain, ployé et déprimé par 20 années d'un dur travail. Sa taille s'était redressée, sa tête levée, et si son visage portait dans l'obliquité des sourcils et l'abaissement des coins de la bouche l'empreinte d'une douleur sincère, cette douleur même l'avait ennobli. Plus de soucis immédiats, plus d'inquiétudes agaçantes, mais des préoccupations plus hautes, plus dignes. C'étaient des parents qui l'attendaient, des cousins du Pays Basque et du Béarn, les uns de Mauléon et de Saint-Palais, portant le nom de Barinque, les autres, les Pédebidou d'Orthez. Autrefois, ses camarades d'enfance, ses amis de jeunesse, il ne l'avait pas vu depuis 25 ou 30 ans, mais il connaissait l'histoire de sa vie et de ses luttes. Aussi, quand ils avaient appris par les domestiques sa présence au château, n'avait-il pas été sans éprouver une certaine inquiétude, aussi bien dans leur fierté de personnages considérés que dans leur prudence provinciale de gens intéressés, ce qu'ils étaient tous les uns et les autres. Avait-il seulement des souliers aux pieds, le pauvre diable? Et d'autre part, à quelle demande d'argent n'allait-il pas être exposé? Les plaintes si souvent répétées de Gaston pendant ces 20 dernières années n'étaient pas oubliées. Et, en se rappelant comme il avait été exploité par son frère, on s'était invité, réciproquement, à se tenir sur la réserve et la défensive. Cousin, on l'était, sans doute, mais c'est une parenté assez éloignée pour qu'elle ne crée, Dieu merci, ni devoir ni lien. Il y eut de la surprise quand on le vit entrer dans le salon, les pieds chaussés comme tout le monde, et non de bottes éculées de Robert Macaire. À la vérité, les volets ne laissaient pénétrer qu'une clarté douteuse, mais celle qui tombait des impostes suffisait, cependant, pour montrer que son habit n'était pas honteux et qu'il portait des gants avouables. Alors, un changement de sentiment se produisit instantanément, et toutes les mains se tendirent pour serrer les siennes. « Comment vas-tu? Et ta femme? N'as-tu pas une fille? Elle s'appelle Annie. Alors, tu as gardé les traditions de la famille et le souvenir du pays. » De nouveau, les mains s'étreignirent. Le revirement fut si complet qu'après avoir exprimé des regrets pour la brouille survenue entre les deux frères, on en vint à blâmer Gaston qui avait persisté dans sa rancune. Ah, « c'était là une des faiblesses de son caractère, » dit l'un des Barinques de Mauléon. « Les relations de famille doivent reposer sur l'indulgence, » dit un autre. « Cette indulgence doit être réciproque, » appuya l'aîné des Pédebidou. « Ce n'est pas seulement sur l'indulgence que ces relations doivent reposer, c'est aussi sur la solidarité. En vertu de ce principe, deux des cousins, ceux à qui leur âge et leur position donnaient l'autorité la plus haute, l'attirèrent dans un coin du salon. « Tu sais les relations qui existaient entre ton frère et un certain capitaine de dragon. » J'ai vu Rébénac. Tous deux en même temps lui prirent les mains, l'un la gauche, l'autre la droite, et les serrèrent fortement. « Qu'on établisse ces bâtards, » dit l'un, « rien de plus juste. Je blâme les pères qui, dans notre position, laissent leurs enfants naturels devenir les fils des vagabonds, les filles des gueuses. Mais qu'on fasse cet établissement au détriment de la famille légitime, c'est ce que je n'admets pas. « C'est ce que nous blâmons, » dit l'autre. « Crois bien que nous sommes avec toi et que nous te plaignons. Sois certain aussi que tu peux compter sur nous pour montrer à cet intrigant le mépris que nous inspirent ses manœuvres. » De nouveaux arrivants interrompirent cet entretien intime. Il fallut revenir à la cheminée et les recevoir, leur tendre la main, trouver un mot à leur dire. C'était la troisième fois qu'à cette place, il assistait à ce défilé de parents, d'amis, de voisins ou d'indifférents, qui constituent le personnel d'un bel enterrement. La première pour sa mère quand il était encore enfant, la seconde pour son père, à la gauche de son frère, et maintenant tout seul pour celui-ci. Même obscurité, même murmure de voix étouffées, même tristesse des choses dans ce salon où rien n'avait changé, et où les vieux portraits sombres qui faisaient des taches noires sur les verdures pâlies et qu'il avait toujours vues, semblaient le regarder comme pour l'interroger. Parmi ceux qui passaient et lui tendaient la main, il y en avait peu dont il retrouva le nom. Il est vrai que, pour la plupart, ces physionomies évoquaient des souvenirs, mais lesquels ? C'était ce que sa mémoire hésitante et troublée ne lui disait pas assez vite. Il lui sembla qu'un mouvement se produisait dans les groupes formés çà et là, et que les têtes se tournaient de ce côté. Instinctivement, il suivit ses regards et vit entrer un officier. « C'est le capitaine !» dit un des cousins. Après un regard circulaire, jeté rapidement dans le salon pour se reconnaître, le capitaine s'avança vers la cheminée. En grande tenue, le sabre au crochet, appuyé sur ses aiguillettes, le casque dans le bras gauche, il marchait, sans paraître faire attention aux yeux ramassés sur lui. « Tu vois, aucune ressemblance !» dit à voix basse le même cousin qui l'avait annoncé. Mais cette non-ressemblance ne lui parut pas du tout frappante comme le prétendait le cousin. Au reste, il n'eut pas le temps de l'examiner. Arrivé devant eux, le capitaine s'inclinait et il allait se retirer sans qu'aucun des parents eût répondu à son salut autrement que par un court signe de tête, quand, dans un mouvement de protestation en quelque sorte involontaire, Barinque avança la main. Le capitaine alors avança la sienne et ils échangèrent une légère étreinte. « Tu lui as donné la main ?» dit un des Barinques quand le capitaine se fut éloigné. « Comme à tous les invités, tu n'as donc pas vu ses pattes d'argent et ses aiguillettes ?»« Quelles pattes ?»« Sur son dolman ?»« Ses épaulettes, si tu aimes mieux ?»« Eh bien, qu'importe ses pattes ?» Ce cousin qui avait quitté l'armée pour se marier et qui était au courant des usages militaires haussa les épaules. « On ne porte pas la grande tenue à l'enterrement d'un ami, » dit-il, « mais simplement le képi et les pattes noires. S'il l'a revêtu aujourd'hui, c'est pour afficher ses droits et crier sur les toits qu'il se prétend le fils de Gaston. » Bien que ces observations se fussent échangées à voix basse, elles n'avaient pas pu passer inaperçues. Et, tandis que les uns se demandaient ce qu'elle pouvait signifier, les autres examinaient le capitaine avec curiosité. On avait vu l'accueil plus que froid des cousins, la poignée de main du frère, et l'on était dérouté. L'entrée du notaire Rébénac amena une diversion. Puis de nouveaux arrivants se présentèrent, et ce fut bientôt une procession. Alors, le salon s'emplissant, ceux qui étaient entrés les premiers cédèrent la place aux derniers, et l'on se répandit dans le jardin, où l'on trouvait plus de liberté, d'ailleurs, pour causer et discuter. « Vous avez vu que M. Barinque a tendu la main au capitaine Sixte ? Pouvait-il ne pas la lui donner ? Dame, ça dépend du point de vue auquel on se place. Justement, si le capitaine est le fils de M. de Saint-Christeau, il est, quoi qu'on veuille, le neveu de M. Barinque. Et dès lors, c'est bien le moins que celui-ci tende la main au fils de son frère. S'il ne l'est pas, et ne vient à cet enterrement que pour s'acquitter de ses devoirs envers un homme qui fut son protecteur, il me paraît encore plus difficile que la famille de celui à qui on rend hommage lui refuse la main. Même s'il s'est fait léguer une fortune dont il frustre la famille, alors je trouverais que M. Barinque n'en a été que plus crâne. Ses cousins l'ont blâmé. à cause de la pâte blanche. Et ceux qui connaissaient le cérémonial militaire eurent le plaisir d'en enseigner les lois à ceux qui les ignoraient. Cela fournit un sujet de conversation jusqu'au moment où le clergé arriva pour la levée du corps. Quelle place allait occuper le capitaine dans le convoi? Ce fut la question que les curieux se posèrent. Si la tenue du capitaine était une affirmation, cette place pouvait en être une autre. Tandis que la famille prenait la tête, le capitaine se mêla à la foule, au hasard, et ce fut dans la foule aussi qu'il se plaça à l'église, sans que rien dans son attitude montrât qu'il attachait de l'importance à un rang plutôt qu'à un autre. Les parents occupaient dans le chœur le banc drapé de noir, qui, depuis de longues années, appartenait aux saints cristaux. Lui restait dans la nef, confondu avec les autres assistants. Mais, comme il était au bout d'une travée et faisait face à ce banc, d'autre part, comme son uniforme tranchant sur les vêtements noirs tirait les regards, chaque fois que Barinque levait les yeux, il le trouvait devant lui. Et alors, il ne pouvait pas ne pas l'examiner pendant quelques secondes. Sa pensée était obsédée par le mot de son cousin. Aucune ressemblance. Si le capitaine était moins grand que Gaston, comme lui, il était de taille bien prise, bien découplée, élégante, souple. Et comme lui aussi, il avait la tête fine, régulière, avec le nez fin et droit. Enfin, comme lui, aussi, il avait les cheveux noirs, mais tandis que la barbe de Gaston était noire et son teint bistré, la moustache du capitaine était blonde et son teint rosé. C'était cela surtout qui formait entre eux la différence la plus frappante. Mais cette différence ne paraissait pas assez forte pour qu'on pût affirmer qu'il n'existait entre eux aucune ressemblance. Assurément, il n'était pas assez près de Gaston pour qu'on s'écriât « C'est son fils !» Mais d'un autre côté, il n'en était pas assez loin non plus pour qu'on s'écriât qu'il ne pouvait y avoir aucune parenté entre eux. L'un avait été un élégant cavalier dans sa jeunesse, l'autre était un bel officier. L'un appartenait au type franchement noir, l'autre mêlait dans sa personne le noir au blond. Voilà seulement ce qui, après examen, apparaissait comme certain. Le reste ne signifiait rien. Et franchement, on ne pouvait pas là-dessus s'appuyer pour bâtir ou démolir une filiation. Depuis l'incident de la main donnée au capitaine, une question préoccupait Barinque. Devait-il ou ne devait-il pas inviter le capitaine au déjeuner qui suivrait la cérémonie? Et s'il trouvait des raisons pour justifier cette invitation, celle qui, après le blâme de ses cousins, la rendait difficile, ne manquait pas non plus. Heureusement, au cimetière, c'est-à-dire au moment où il fallait se décider, Rébénac lui vint en aide. « Comme la présence du capitaine à votre table serait gênante pour vous, autant que pour lui peut-être, veux-tu que je l'emmène à la maison ? Cela vous tirera d'embarras. » C'était « nous tirera d'embarras » que le notaire aurait dû dire, car sa position au milieu de ses héritiers possibles était délicate pour lui aussi. Si l'amitié, de même qu'un sentiment de justice, lui faisait souhaiter que l'héritage de Gaston revînt à son ancien camarade, d'autre part, les intérêts de son étude voulaient que ce fût au capitaine. Héritier de son frère, Barinque conserverait sans aucun doute le château et ses terres pour les transmettre plus tard à sa fille comme bien de famille. Au contraire, le capitaine, qui n'aurait pas des raisons de cet ordre pour garder le château, et qui même en aurait d'excellentes pour vouloir s'en débarrasser, le vendrait, et cela entraînerait une série d'actes fructueux qui, au moment où il pensait à se retirer des affaires, grossirait bien à propos les produits de son étude. Dans ces conditions, il importait donc de manœuvrer assez adroitement entre celui qui pouvait être l'héritier et celui qui avait tant de chances pour être légataire, de façon à conserver des relations aussi bonnes avec l'un qu'avec l'autre. De là son idée d'invitation qui, d'une pierre, faisait deux coups. Il rendait service à Barinque dans une circonstance délicate et en même temps, il montrait de la politesse et de la prévenance envers le capitaine qui, certainement, devait être blessé de l'accueil qu'il avait trouvé auprès de la famille.